Vous écoutez Secrets d'Histoire, Napoléon, l'exilé de Sainte-Hélène. Deuxième partie.
Tandis que Napoléon s'installe à Sainte-Hélène, à Paris, c'est le roi Louis XVIII, frère cadet de Louis XVI, qui est monté sur le trône. Il s'est contenté, ici ou là, de changer quelques détails du décor laissé par celui qu'il appelle l'usurpateur. Il faut dire que Napoléon, soucieux d'installer sa dynastie dans l'histoire, n'a jamais lésiné sur le faste. Ce luxe, Napoléon l'a laissé derrière lui comme autant de témoignages de son règne court, mais tellement intense. Quel roman que ma vie, confie-t-il à l'un de ses compagnons. Général à 25 ans, premier consul à 30, empereur à 35, Napoléon a placé ses frères sur les trônes d'Europe, refondé nos institutions, promulgué le code civil. Des pyramides à Champaubert en passant par Marengo, Sterlitz, Wagram, il a remporté d'innombrables batailles à la tête de sa grande armée, auréolant tout un peuple de ses victoires. Dans sa prison maritime, alors qu'en Europe et en France, on commence à l'oublier, il lui reste encore à écrire sa légende.
Napoléon souhaite écrire ses mémoires parce que César l'a fait.
Jean Tullard, historien.
Et Napoléon entend rappeler ses exploits.
Alors pour écrire ses mémoires, Napoléon a mis en place un véritable plan de bataille, finalement en distribuant les rôles à tout son entourage. À Lascaz, d'abord, qui est un peu effectivement son favori, son chouchou, avec son fils, hein, parce que Lascaz travaille avec son fils.
C'est un homme de lettres, il est très fin, il est très cultivé.
Léa Charlicard, commissaire d'exposition au musée de l'armée.
Et c'est justement un univers qui est assez différent de l'univers dans lequel Napoléon a l'habitude d'évoluer, qui est un univers militaire.
Napoléon convoque tantôt Gourgaud, tantôt Montholon, il s'installe et Napoléon raconte ses batailles. Il ne les raconte pas de mémoire. Il a une documentation qu'il a fait venir.
Il reste debout, il marche, il dicte avec passion. Napoléon, qui tient à être très précis, qui ne laisse, comme d'habitude, rien au hasard. Et ses secrétaires, ses officiers prennent à la volée ce qu'ils appelleront ses dictées fabuleuses. Hein. Napoléon est capable, on le sait, d'échauffer son esprit et d'être véritablement prodigieux.
Napoléon n'écrit jamais par coquetterie, peut-être, parce que son écriture est illisible, très difficile à lire, parce qu'il fait des fautes.
Il mélange un peu les mots. Par exemple, il dira pour rente viagère, il dit les rentes voyagères.
Patrice Guénifé, historien.
Des petites choses comme ça. Il a toujours pensé que le mouvement de la plume, le mouvement de la main qui écrit, ralentissait sa pensée. Et il le dit dans une très belle lettre, il dit « Ma pensée va plus vite que ma main ». Napoléon avait cette faculté de garder l'esprit très concentré pendant des heures. Et la dictée continue tant que l'empereur lui-même ne souhaite pas s'arrêter. Ses secrétaires, parfois, finissaient, mais réellement physiquement et mentalement, épuisés après plusieurs heures de dictée.
Il aura un mot pour expliquer cette situation, le travail et la faute du temps. Le travail permet d'éviter l'oisiveté, d'éviter l'ennui et d'éviter finalement la dépression.
De dictée en dictée, de bataille en bataille, Napoléon se raconte, en commençant par sa jeunesse. Il accumule rapidement des milliers de pages, dont une partie est aujourd'hui conservée à la Bibliothèque nationale.
Les quatre personnes qui entourent Napoléon, Lascaz, Bertrand, Montholon et Gourgaud, avec épouse, fils et autres, vivent en commun et effectivement la promiscuité entraîne des frictions d'amour propre.
On est dans un huis clos oppressant où tout le monde se jalouse, s'épie, s'observe, se regarde.
Pierre Branda, historien.
On guette la faveur du maître, hein. Le maître vous appelle à n'importe quelle heure. Donc celui qui va être le plus en cour va être évidemment pas jalousé par les autres. Gourgaud est très agressif avec Lascaz, hein. Il l'appelle le jésuite, il ne cesse de se moquer de lui, de sa timidité, de sa peur, il le traite même de lâche. Hein.
Lascaz est l'intrus, le civil, Celui qui vient fourrer son nez là où il ne doit pas le faire.
Le général Gourgaud est dévoué à Napoléon au-delà de ce qu'on peut imaginer. Il considère qu'il lui a sauvé la vie plusieurs fois dans ses campagnes et que par conséquent, l'empereur lui doit quelque chose.
Thierry Lenz, historien et directeur de la Fondation Napoléon.
Et ce quelque chose, c'est de l'affection. C'est le type même de l'amoureux transi.
Napoléon déteste qu'on soit trop familier avec lui, même s'il est affectif. Enfin, il tient à garder certaines distances et rester empereur. Or, Gourgaud devient de plus en plus familier.
Jamais personne n'a parlé à Napoléon comme Gourgaud lui parle à Sainte-Hélène.
Les sentiments de Gourgaud sont trop forts et sont déraisonnables. Hein. Souvent, ils s'affrontent, leurs colères respectives sont très fortes, tempétueuses, etc. Gourgaud se met à pleurer, Napoléon lui tire un petit peu l'oreille, le réconforte, etc. Mais enfin, à chaque fois, ça recommence.
Et Napoléon dira un mot très cru. J'ai cru qu'il allait m'enculer. Il le dira. Vous voyez, tout c'est un petit monde. C'est dans un périmètre très restreint.
Évidemment, c'est l'humour un peu vachard, un peu militaire de Napoléon. Gourgaud n'est pas homosexuel. Mais Gourgaud a cette adoration pour Napoléon.
Gourgaud a l'air d'avoir totalement perdu la tête de jalousie. Les conséquences de ça, c'est que Gourgaud va être insupportable à tout le monde.
Il va y avoir des disputes extrêmement graves entre Gourgaud et Montholon, entre Gourgaud et Lascaz.
Charles-Éloi Vial, historien.
Et en réalité, à chaque fois, il va devoir leur interdire de se disputer, leur interdire de se battre en duel. Il va les punir, notamment en les privant de paraître au salon ou de paraître à la salle à manger de Longwood.
Napoléon disait lui-même « Je suis grand pour les grandes choses et petit pour les petites ». Eh bien, c'est ce qui se passe à Sainte-Hélène. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a la grandeur de cet exil, le martyr, le sacrifice, et puis il y a les petitesses, toutes ces mesquineries à l'égard de son entourage.
Et puis il y a les femmes.
Philippe Séguy, écrivain.
Les femmes qui vont essayer en quelque sorte le distraire. Grande, profonde et totale rivalité entre la générale Bertrand et la générale Montholon. Ces femmes se détestent.
Napoléon aurait bien aimé faire de Madame Bertrand une de ses maîtresses, mais la forteresse de Madame Bertrand n'a pas cédé au siège assidu de l'empereur.
En revanche, Albine de Montholon, elle s'est montrée très complaisante avec la complicité de Montholon lui-même, du mari.
Donc pour lui, le fait que son épouse devienne la maîtresse de l'empereur est presque un honneur, comme on le considérait sous l'Ancien Régime.
D'ailleurs, il sera bien récompensé en touchant 2 millions de francs du testament. Hein. C'est le principal bénéficiaire du testament de Napoléon, Montholon.
Albine de Montholon est une très belle femme qui a tous les usages du monde. C'est un ornement pour Longwood. Napoléon est content de l'avoir à ses côtés. Il est content de profiter de sa conversation. Il est content de profiter de sa compagnie.
Les deux se sont courtisés et sont tombés, si je puis dire, sous le charme l'un de l'autre. Mais bon, pour Napoléon qui cherche un peu d'affection, un peu de réconfort et de présence féminine, si je puis dire, il n'a qu'elle. Mais on voit bien qu'il cherche la moindre affection. Il en trouve un peu avec Albine, mais seulement un peu.
Et d'ailleurs, finalement, Albine de Montholon va se retrouver enceinte d'une fille qui s'appellera Napoléon.
Dans la promiscuité de Longwood, Napoléon n'hésite pas à diviser pour régner, afin de mieux contrôler son entourage. C'est pourquoi son véritable favori n'est pas celui ou celle qu'on pourrait croire.
Alors, le dîner à Longwood est réglé par le maître d'hôtel Cipriani, qui est un Corse assez intrigant.
Avec Cipriani, Napoléon a une familiarité qu'il n'a pas avec les autres, parce qu'ils peuvent tous les deux parler en italien ou en dialecte corse. Ils peuvent échanger des plaisanteries ou parler de leur pays natal. Donc, il y a une sorte de lien qui se crée entre eux. Napoléon, finalement, trouve là quelqu'un qui ne lui parle pas comme un souverain, qui lui parle plus comme un ami.
sa qualité de maître d'hôtel, même s'il effectivement effectue son service, c'est quand même une couverture. C'est un agent de Napoléon, un agent d'influence, ce qui est particulièrement intéressant parce qu'en tant que maître d'hôtel, c'est Cipriani qui se rend au marché pour compléter les approvisionnements Longwood. Il a comme ça une liberté de mouvement sur l'île qui lui permet d'approcher les visiteurs, d'avoir noué des contacts.
Et essayer de recueillir des informations, des rumeurs pour l'empereur, et même simplement des ragots sur ce qui se passe, sur que font les soldats, qui couche avec qui est malade, qui est en bonne santé. Donc en fait, Cipriani est une sorte de maître espion. Comme Napoléon s'ennuie, tout ce que Cipriani peut lui rapporter comme anecdote de l'extérieur, Napoléon, finalement, est extrêmement heureux de l'entendre.
C'est le premier confident, hein, ne serait-ce que par la facilité avec laquelle les deux hommes communiquent. Hein.
Pour Napoléon, le moment le plus agréable de la journée est sans doute le soir. Entouré de sa petite cour, il se distrait en écoutant la générale Bertrand jouer du piano ou en lisant les classiques à haute voix. Et surtout, il peut enfin s'adonner à sa passion pour le jeu.
On va improviser des parties de cartes ou des parties de whist. Mais les parties de cartes sont un peu particulières, puisque Napoléon, qui déteste perdre, n'hésite pas à tricher. Personne, bien sûr, n'ose lui en faire la remarque.
Et il va tricher pour le simple plaisir de voir le grand maréchal Bertrand perdre, puisque Bertrand est un petit peu son souffre-douleur par moment.
Et on sait par exemple que ses disputes les plus violentes avec sa mère étaient à propos de tricherie aux cartes. Sa mère lui avait transmis dans ses gènes sa pingrerie. L'homme, sans être totalement avare, du moins est économe et prête ses sous. Il divisait toutes les factures par trois, en estimant a priori que de toute façon les fournisseurs abusaient de sa bonne volonté et multipliaient les prix par trois. Donc il était normal qu'il ne paye que le tiers des factures qui lui étaient présentées.
Pour l'empereur, les soirées de Longwood sont également l'occasion de se livrer comme jamais, au gré de la conversation.
Entendre l'empereur raconter Iéna, raconter Austerlitz, était un moment de grâce ineffable et inoubliable.
Et c'est tout le contraste. Quand Napoléon se raconte le soir à Longwood, la bataille prend une autre tournure, c'est plein de vie.
Napoléon revient beaucoup sur la bataille de Waterloo, il s'interroge sur les raisons de sa défaite, un sujet qui reste brûlant puisqu'il a perdu la bataille il y a très peu de temps.
Il explique sa défaite par le mauvais entourage, la mauvaise volonté de ses maréchaux, la médiocre qualité des troupes.
Ça devient obsessionnel chez lui d'accuser ceux qui l'auraient, entre guillemets, trahi.
Il accuse tout le monde, sauf lui-même.
Lascaz, qui veut briller, et qui veut surtout faire briller Napoléon pour pouvoir bien prendre des notes, Lascaz est le grand animateur des soirées. Les trois autres, écoute, posent moins de questions que n'en pose Lascaz.
Et là, avec Lascaz, Napoléon comprend très vite qu'il va pouvoir donner une image avantageuse de lui-même et de son histoire.
Dans ses confidences de manière plus générale, Napoléon fend un peu l'armure et se révèle plus humain. Il y a une part de mea culpa, même si elle est contrôlée, limitée, mais il y en a quand même une, hein. Par rapport à l'esclavage, notamment, hein, où il dira que c'était l'expédition coloniale qu'il a envoyée aux Antilles en 1802 était une erreur profonde. Il reconnaît certaines erreurs, pas toutes. Napoléon se confie absolument de manière transparente et volubile.
Au contraire des ennuyeux mémoires dictées dans l'après-midi, les propos sans filtre de Napoléon constituent un extraordinaire matériau pour un livre.
Le génie de Lascaz, bien évidemment, c'est de recueillir cette manne avec énormément de talent et de l'écrire de façon tout à fait remarquable.
Le mémorial de Sainte-Hélène, c'est un journal classé chronologiquement, jour par jour, et l'on voit Napoléon vivre, prendre un bain, faire la cour à Madame Bertrand.
Cet écrit va donner un effet de contraste très fort entre un peu une vie exceptionnelle et une réclusion qui elle-même est à des côtés assez sombres et misérabilistes. On alterne ces deux styles, ce qui donne une originalité folle au mémorial.
Lascaz jette sur le papier ce qui est le mouvement même de l'esprit de Napoléon. Même si il est vrai que Lascaz, ensuite, y a mis un petit peu du sien, ajoutant quelques paroles mémorables, inventant quelques anecdotes, corrigeant quelques propos de l'empereur qu'il jugeait déplacés ou malsonnants. Et chez Lascaz, on trouve le mouvement de la vie. Et c'est ça qui est irremplaçable dans son témoignage.
À la fin de l'année 1816, Lascaz, ayant réuni la matière nécessaire à son livre, saisit le premier prétexte venu pour obtenir son renvoi en France. Napoléon perd le plus précieux de ses interlocuteurs. Il ne tarde pas à renoncer à ses dictées, qui lui permettaient pourtant de combattre la mélancolie de l'exil.
À Sainte-Hélène, Napoléon se souvient avec nostalgie de ses deux épouses, Joséphine et Marie-Louise, devant son confident Lascaz. Il disait « L'une était l'art et les grâces, l'autre l'innocence et la simple nature, et chacune avait bien son prix. » Tout au long de sa carrière, Napoléon a eu pour ennemis principaux les Anglais. Alors qu'à Sainte-Hélène, on annonce l'arrivée d'un nouveau gouverneur, Sir Hudson Lowe, il se garde bien d'insulter l'avenir.
Hudson Lowe, c'est un militaire anglais qui n'a pas eu une carrière extraordinaire jusque-là. Il s'est surtout fait remarquer pour avoir levé un régiment de Corse qui se battait contre la France.
Imaginons un grand bonhomme, assez émacié, extrêmement tatillon, manquant sérieusement d'humour, ce qui est quand même terrible pour un Britannique. Le lendemain de son arrivée, Hudson Lowe demande à voir son prisonnier. Et il est 9h du matin.
Napoléon sait très bien que s'il laisse ne serait-ce qu'une toute petite facilité aux Anglais, ensuite, tout est permis.
Il se présente sans être annoncé, ce qui permet à Napoléon de refuser de recevoir, et donc de dire, voyez comme cet homme est malotru, comme bien la façon dont il me traite.
Le grand maréchal du palais lui fait savoir que Sa Majesté n'est pas disponible et qu'il doit demander audience pour un autre jour.
Fureur de l'individu Hudson Lowe, c'est un chapelet d'injures qu'il déverse en quelque sorte sur Napoléon. Donc il ronge son frein durant des heures et des heures et des heures en attendant que celui qui est son prisonnier accepte de le recevoir.
Le nouveau gouverneur prend ses quartiers dans la magnifique résidence qui lui est réservée, Plantation House, à 4 km de Longwood. Et ce n'est que le lendemain, à 5h de l'après-midi, que Napoléon daigne enfin le recevoir.
Napoléon va vouloir poursuivre son avantage, donc d'abord il impose la langue de l'entretien, ça va être l'italien.
Les deux adversaires s'observent. Ils se tournent autour, ils se cherchent, ils s'envoient quelques piques.
Napoléon, qui espère améliorer ses conditions de captivité, prend l'avantage dans l'entretien parce qu'en fait, c'est un soliloque. Napoléon, c'est un monologue. Et même s'il pose quelques questions, Hudson Lowe est un peu gêné, ne répond pas vraiment. Et Hudson Lowe reste de marbre, roide et droit dans ses bottes. Napoléon sent tout de suite que son séduction n'agit pas. Et là, c'est un mur qui va se dresser en face de lui.
À l'issue de cette première rencontre, Hudson Lowe va tout de suite signer un premier règlement qui durcit les conditions de détention à Longwood.
Napoléon a appris qu'on ne pouvait plus sortir à telle heure, qu'il n'aurait pas la possibilité de prendre sa calèche pour aller se promener, qu'il n'a pas l'autorisation de prendre son cheval, qu'il n'a pas l'autorisation de rencontrer un tel ou une telle.
Et immédiatement, cela va envenimer les relations avec les Français. Donc d'emblée, Hudson Lowe se fait très mal voir.
Hudson Lowe était un personnage étroit d'esprit, obsédé par le règlement.
Andrew Roberts, historien.
Quand Napoléon a reçu un jeu d'échecs avec un N comme initiale sur certaines pièces, Hudson Lowe a refusé de les lui remettre. Pour lui, le N représentait l'empereur Napoléon. Et ça ne pouvait pas être toléré, car Napoléon n'était pas empereur, mais général.
À l'intérieur de l'île, Napoléon est gardé de manière concentrique. Il y a d'abord des points de passage avec, comme ça, des gardes, des sentinelles un peu partout. Ajoutons qu'il y a un système de pavillons qui est installé dans l'île. Hein. Il y a 17 à 18 points qui ont chacun une signification. Bonaparte a escape, Bonaparte s'est échappé, Bonaparte est malade, Bonaparte se promène. Donc à chaque fois qu'il y a un changement de situation de Napoléon, un pavillon est tissé le jour et qui est répercuté dans toute l'île, ce qui fait que tout le monde est au courant de ce que fait Napoléon. Jamais on n'a consacré autant de moyens pour garder un seul homme. Parce qu'au-delà de la seule île de Sainte-Hélène, c'est tout un océan, l'Atlantique Sud, qui est réservé à Napoléon. Puis toute la flotte britannique de l'Atlantique Sud régule le trafic maritime autour de Sainte-Hélène et empêche qu'on puisse s'en approcher.
Même si l'île de Sainte-Hélène est une défense naturelle, aux yeux d'Hudson Lowe, ça ne suffit pas. Il demande sans arrêt à Londres des renforts supplémentaires.
3000 hommes de garnison sont installés. Les seules baies très étroites qui permettent d'entrer dans ce rocher volcanique sont murées. C'est une sorte de petite muraille de Chine que les Anglais ont édifiée et sur lesquelles ils ont installé près de 500 canons pour défendre l'île. C'est quand même deux fois plus de canons qu'à la bataille de Waterloo.
Napoléon, à ce mot, un oiseau lui-même ne pourrait pas s'évader. Et il le fait dire à Hudson Lowe. Mais enfin, vous avez peur de quoi? Que je me transforme en oiseau?
Il y a eu beaucoup de projets d'évasion formés par d'anciens généraux de Napoléon en Amérique, au Brésil, par des aventuriers, mais plus étonnant encore, par des Britanniques qui ont, hostiles à leur gouvernement, ont voulu faire évader, libérer Napoléon. Le plus farfelu, le plus inventif d'entre eux est un Anglais qui a construit deux sous-marins dans la banlieue de Londres.
Napoléon a été informé de plusieurs de ces projets et l'un d'eux au moins a pris une tournure concrète. Il s'agissait de le déguiser en ouvrier chinois. On l'aurait enfermé dans un baril de bière qui aurait été chargé sur un navire. Après quelques réflexions, Napoléon a quand même conclu que quand on avait été le maître de l'Europe, on ne pouvait pas se sauver déguisé en chinois dans un baril de bière.
Napoléon est un homme méthodique, c'est un homme de système. Il va tout mettre en œuvre, systématiquement, pour se présenter comme le martyr de l'Angleterre.
L'objectif de Napoléon est très simple. En me dépouillant du manteau du tyran, Hudson Lowe fait de moi un martyr.
Et à ce jeu-là, Hudson Lowe est beaucoup trop bête pour comprendre où veut l'emmener Napoléon.
C'est Napoléon qui, sans arrêt, le provoque. Le seul exploit militaire de Hudson Lowe, c'est d'avoir tenu Capri, et il va en être chassé par les Français. Il va faire une retraite piteuse. Et Napoléon, chaque fois qu'il le voit, lui rappelle cette défaite. Donc ça vexe l'autre, qui va effectivement devenir de plus en plus hostile à Napoléon.
Napoléon va se plaindre d'être traité de manière trop sévère.
On a vu des sentinelles mettre en joue l'empereur pour faire du zèle, non, pour simplement obéir aux dernières directives d'Hudson Lowe.
Donc d'un côté, vous avez quelqu'un qui cherche les provocations et de l'autre, quelqu'un qui, par bêtise, entre dans le jeu de Napoléon, il ne s'en rend pas compte.
Il est devenu de plus en plus paranoïaque parce que Napoléon l'a fait tourner en bourrique, Napoléon a tout fait pour que Hudson Lowe se braque.
Et il va alors là faire une sorte de zèle perpétuel qui va donner du grain à moudre à Napoléon.
Hudson Lowe a fini par devenir ce geôlier complètement intransigeant, extrêmement déplaisant, glacial, que Napoléon voulait qu'il soit.
Au jeu du chat et de la souris, le stratège Napoléon, maître en la matière, n'a pas tardé à prendre l'ascendant. Une fois encore, il s'agit d'émouvoir l'opinion publique anglaise pour obtenir son retour.
Alors, les mailles du filet anglais sont plus que percées, hein, parce que le système de surveillance d'Hudson Lowe est totalement contourné par Napoléon. Beaucoup de navires s'arrêtent à Sainte-Hélène, hein, ce sont des dizaines de navires par mois qui s'y arrêtent, ils sont anglais, certes. Donc, il est possible aux domestiques de Napoléon d'approcher ses capitaines de bateaux, ses matelots, ses marins, de leur proposer des sommes très importantes, c'est entre 10 et 15 000 francs. On vous remet un paquet, il est ramené en Angleterre, ce qui fait que Napoléon écrit, publie, envoie des messages en Angleterre comme il veut. On estime qu'il a dépensé pour ça 1 million de francs, ce qui est quand même énorme, ce qui nous donne à peu près entre 70 et 80 messages secrets envoyés probablement en Angleterre, hein, pour la plupart.
Dans les journaux anglais, la vie de Napoléon à Sainte-Hélène est racontée avec précision. Les lettres qu'il écrit sont interceptées par la presse, sans omettre le moindre détail.
Tim Clayton, historien.
À partir du moment où il cesse d'être dangereux, Napoléon devient presque une figure sympathique. Les gens s'intéressent bien sûr à ce qui lui arrive. Voir son ennemi désarmé devenir une figure positive, pour le gouvernement britannique, c'est vraiment ce qu'il y a de pire.
Je pense qu'il y a une vraie relation amour-haine des Anglais avec Napoléon. Beaucoup d'entre eux adorent ses idées, surtout chez les radicaux, pour tout ce qu'il a fait en France et qu'ils auraient voulu transposer ici. Du coup, on est vraiment schizophrène par rapport à Napoléon. C'est un grand homme et un grand ennemi.
Fasciné par Napoléon, le duc de Wellington, comme la majorité des Anglais, n'en soutient pas moins le gouvernement conservateur, partisan de l'exil à Sainte-Hélène. Afin de retourner l'opinion britannique, l'empereur se déchaîne plus que jamais contre sa cible préférée, le gouverneur Hudson Law.
Pour lui, c'est devenu un champ de bataille. Hein. Un champ de bataille contre Hudson Law, contre le gouvernement.
Ça va être de plus en plus violent entre eux. Napoléon va hausser le ton.
Et Hudson qui se pense légal un peu de Napoléon, lui tient tête.
Hudson Law qui est capable de menacer, de faire forcer les portes de Longwood, de fouiller les malles, de regarder ce qui se passe dans les écuries. On arrive véritablement à des querelles de boutiquiers. Un des reproches hystériques que Hudson Law ne cesse de faire, c'est que les frais de bouche sont beaucoup trop considérables. Réplique immédiate de Napoléon, « Ah, monsieur, eh bien, j'irai m'asseoir à la table des braves officiers du 53e qui, eux, ne refuseront pas un quignon de pain à l'un des plus anciens soldats de l'Europe. » C'est du théâtre.
Sur 5 ans et demi de captivité, Hudson Law et Napoléon se rencontreront seulement 6 fois et seulement d'avril à août en 1816.
Et la dernière rencontre a lieu le 26 août. C'est le moment où Napoléon va lâcher le mot et il va traiter Hudson Law de bourreau.
Il a, pour le personnage, un mépris complet. Il le considère finalement comme un garde-chiourme et qui ne vit plus à l'idée que Napoléon lui échappe.
Hudson Law va tourner les talons, très fâché, rouge de colère. Hein.
À partir de cette scène de rupture, Hudson Law et Napoléon vont communiquer par personne interposée.
Hudson Law essaiera de revenir, mais Napoléon le mettra toujours à la porte. Il aura un malin plaisir à les conduire. Napoléon recevra des officiels britanniques et laissera Hudson Law à la porte de manière ostensible.
Chaque fois qu'il y a un regain de tension donc, entre Longwood et le gouverneur, il donne un tour de vis supplémentaire, il dicte un nouveau règlement qui est plus strict que le précédent, et souvent jusqu'à l'absurde. Hudson Law défend à Napoléon d'adresser la parole à quiconque il pourrait croiser au cours de ses promenades sur l'île. Et Napoléon trouve ça absurde, il lui fait remarquer que de toute façon, on l'a isolé dans une partie de l'île où il n'y a pas de maison, où il est le seul à habiter, et il explique ensuite « Mon âme est libre et indépendante, comme lorsque j'étais à la tête de 300 000 hommes. L'injustice et la force peuvent maltraiter mon corps, mais la réprobation de tous les peuples et celle de la postérité me vengeront. »
Hudson Law se persuade, au fil des semaines, que Napoléon est parfaitement capable de fomenter une mutinerie parmi ses hommes les plus fidèles. Il s'imagine, mais la tête au bout d'une pique, il n'endort plus.
Il est en train de resserrer les mailles du filet de manière épouvantable. Hein. Les Français ne peuvent même plus communiquer avec l'extérieur pour des choses tout à fait banales. Hein. Des réparations de chaussures, des choses comme ça qui deviennent absolument impossibles. En fait, quelque part, il se tire une balle dans le pied parce que Napoléon va devenir beaucoup plus agressif et, si je puis dire, multiplier les attaques contre le gouverneur et contre le gouvernement. Hein.
C'est alors que le gouverneur se décide à passer à l'action. En obligeant le prisonnier et sa suite à restreindre leurs fameux frais de bouche, y compris la consommation des vins et des alcools. Pour Napoléon, c'est une opportunité à ne pas laisser passer.
C'est la première fois où Napoléon va retourner une mesure anglaise à son profit.
Et Napoléon, en retour, dit qu'on veut l'affamer, qu'on veut absolument le réduire à la pauvreté. Donc, il va faire vendre son argenterie avec perte et fracas à Jamestown. Donc, son argenterie va être martelée, va être vendue au poids. Donc, c'est quelque chose d'assez spectaculaire que de voir des dizaines de kilos d'argent massif qui arrivent comme ça sur le marché.
Son argenterie est vendue devant les visiteurs des navires de passage, donc la nouvelle va se colporter, donc ça veut dire Napoléon est aux dernières extrémités, vous vous rendez compte, il est obligé de vendre son argenterie pour manger.
Et là, évidemment, retentissement considérable dans l'Europe royale. Qu'est-ce que c'est que ce pays abominable qui ose contraindre l'homme qu'est Napoléon à vendre son argenterie pour acheter du pain ?
Les Anglais se retrouvent ridicules, si bien que qui va acheter l'argenterie ? Hudson Lowe. Et ça, les Anglais ne s'attendaient pas. Ils ont quand même face à eux un communicant de génie. Hein. Donc ça, ils l'ont pas forcément calculé.
Le gouvernement anglais se dit, mais où va-t-on ? On est en train de se faire véritablement considérer comme la dernière des nations européennes. Tout ça à cause de qui ? À cet imbécile d'Hudson Lowe.
Et Wellington ira même jusqu'à dire, finalement, Sainte-Hélène est un très mauvais choix. On aurait fait mieux de l'envoyer en Écosse ou en Irlande dans une forteresse, parce qu'on n'a jamais autant entendu parler de Napoléon.
Vous venez d'écouter Secrets d'Histoire. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Secrets d'Histoire est un podcast d'Initial Studio, adapté de l'émission de télévision éponyme produite par la Société européenne de production. Cet épisode a été écrit et réalisé par Antoine Demeaux. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale Sarah Koskiewicz et Mandy Lebourg, assistée de Marie Agassan. Montage Camille Legras et Tim Dombouche. Avec la voix d'Isabelle Benadj.